Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de biodiversité, d'environnement avec Joshua Berger, le créateur d'une nouvelle start-up dans ce domaine qui s'appelle BioInt. Bonjour Joshua.
Bonjour.
Alors dans votre dernière entreprise CDC Biodiversité, vous êtes senior advisor. Donc ma première question, la plus difficile, comment à 35 ans peut-on être déjà qualifié de senior ?
Senior advisor, c'est un titre qui est utilisé dans les entreprises, mais il y a aussi par exemple senior consultant, et les gens sont senior consultants au bout de 3 ans de travail dans le conseil par exemple. Donc là, avec 12 ans d'expérience spécialisée sur les questions de biodiversité, d'empreinte biodiversité, voilà, c'est le titre est comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire senior au sens âge.
En fait, ce titre, dans votre cas, est la reconnaissance de dizaines d'années d'expérience dans un domaine d'expertise qui est plutôt nouveau.
Oui, après, c'est un titre sur lequel on s'est mis d'accord avec CDC Biodiversité, mais ça aurait pu être autre chose. Et donc oui, effectivement, c'est le fait d'avoir travaillé pendant 5 ans chez CDC Biodiversité, d'avoir 12 ans d'expérience et d'avoir une expérience poussée sur les sujets d'empreinte biodiversité, qui est un sujet assez nouveau où il y a encore peu d'expertise qui fait qu'on est arrivé sur ce titre.
On va parler de la création de votre entreprise en deuxième partie. On va d'abord revenir sur votre parcours. Donc vous avez eu un parcours qu'on peut qualifier de classique, les classes prépa à Grenoble et ensuite l'école AgroParisTech à Paris. Est-ce qu'on peut dire que vous avez bénéficié de la méritocratie à la française et que vous avez gravi les échelons pour devenir cadre supérieur par vous-même?
En partie et pas complètement, parce que j'ai quand même des avantages initiaux dans ma famille et les moyens, etc. Après, j'ai bien révisé, j'ai travaillé pendant ma classe prépa, etc. pour réussir au concours. J'ai fait différents choix en termes de formation. J'ai choisi d'aller sur l'économie de l'environnement, je me suis formé sur les sujets biodiversité, etc. Qui m'aime à nous suivre, mais bon, je pense que il n'y a pas par exemple tant de personnes d'origine sociale ouvrière par exemple qui étaient en classe prépa avec moi ou qui étaient à AgroParisTech, donc il y a quand même un biais sur les profils des gens qui sont autour de moi, donc c'est pas 100% de la méritocratie, je pense.
J'ai eu quelques indiscrétions par lesquelles j'ai appris que vous aviez fait en classe de 3e le stage classique en entreprise, ce qui aide à savoir ce qu'on va faire plus tard. Et vous aviez fait un stage dans le 05 auprès de Monsieur Fizel dans un centre de faune sauvage. Donc ça aurait pu vous amener par exemple vers le concours de vétérinaire. Est-ce qu'il y a eu des hésitations une fois que vous avez été au niveau du concours pour choisir l'agro plutôt que vétérinaire ou autre chose?
Troisième, j'ai aussi fait une partie du stage dans un cabinet vétérinaire. À l'époque, je souhaitais devenir vétérinaire et c'était encore le cas jusqu'à quasiment jusqu'au concours en deuxième année de classe préparatoire. J'ai passé le concours vétérinaire aussi, pas juste le concours des écoles d'agronomie.
Vous avez eu les deux, je crois.
Ouais, mais donc en dernière année en dernière année de classe préparatoire, j'ai réfléchi plus, et notamment j'étais à une exposition à Grenoble sur les grands singes, et je me suis dit qu'en fait, vétérinaire c'était bien, on pouvait sauver les animaux, etc. C'est ce que je voulais faire initialement, mais ça permettait pas d'avoir un impact aussi important, par exemple on sert des gens autour de la zone où on est, des animaux domestiques ou des animaux de la ferme dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres par exemple, mais ça n'a pas un impact au niveau de plusieurs pays ou d'un pays, etc. Alors qu'en étant ingénieur agronome, c'était possible d'avoir cet impact là à un niveau plus grand, régional, mais au sens au-delà d'un pays. Et donc c'est pour ça que je me suis plutôt dirigé vers AgroParisTech.
Oui, vous vouliez un impact sur la planète en définitive. Et vous disiez tout à l'heure que vous êtes orienté un peu plus vers l'environnement pendant les études de l'agro. Je crois que vous avez fait un master EDDEE. Est-ce que déjà vous aviez dans l'optique, en faisant ce master, de bosser pour des boîtes comme CDC Biodiversité, ce que vous faites en ce moment?
Après, ce qui a guidé un peu mes choix à AgroParisTech, c'était aussi d'essayer de maximiser mon impact. Donc c'est pour ça, par exemple, que j'ai décidé d'apprendre le chinois. Et sur mon choix de spécialité, j'ai effectivement suivi le master EDDE, qui est en économie du développement durable, de l'environnement et de l'énergie. Donc c'est un master en économie de l'environnement. Et dans l'objectif, enfin parce que je considérais que les outils économiques, comme les taxes, les subventions, les permis de quota pour les marchés de carbone, par exemple, sont des outils qui sont nécessaires pour changer la société. Et que s'il n'y a pas d'incitation économique, on va pas changer les choses. Et donc à l'époque, oui, j'avais déjà regardé CDC Biodiversité, parce que pendant mon stage de fin d'études, j'avais repéré l'entreprise. Mais j'avais l'impression que c'était une entreprise qui recrutait pas vraiment de jeunes diplômés, et je sais plus si j'avais candidaté ou pas, mais en tout cas ça avait rien donné. Après j'avais continué de suivre l'entreprise, et je les ai rejoints beaucoup plus tard, après 8 ans d'expérience professionnelle.
Alors c'est vrai qu'une fois le diplôme en poche, comme vous le dites, vous n'avez pas pu aller directement vers CDC Biodiversité. Donc vous avez travaillé pour des conseils en environnement comme le BIP, Biotope. Et ce qui est assez incroyable, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que vous aviez une attirance pour la Chine qui vous a carrément fait partir en Chine pour y travailler d'abord pour Biotope et ensuite de votre propre chef. Pour une université chinoise.
Donc quand j'étais en stage de fin d'études, pas déjà quand j'étais à AgroParisTech, donc j'ai commencé à apprendre le chinois en première année, et j'ai fait plusieurs stages séjours d'études en Chine et à Taïwan, et parce que je me suis dit que c'était un pays très grand avec une forte croissance, et que du coup il y avait beaucoup d'impacts environnementaux et beaucoup d'opportunités de protéger l'environnement. Et donc ensuite j'ai passé beaucoup de temps à apprendre le chinois, quasiment 1 à 2 heures par jour, tous les jours. Et donc c'était un gros investissement. Et donc après l'objectif c'était de pouvoir travailler en Chine. Et donc oui, chez Biotope, le bureau d'études en biodiversité, je faisais partie de l'équipe internationale, à la fois sur les sujets en économie de l'environnement, sur par exemple les évaluations économiques des financements en faveur de la biodiversité, mais aussi les projets de restauration écologique à l'international, et donc notamment en Chine. Et du coup, j'ai pu partir en Chine avec Biotope, à la fin de mon volontariat international en entreprise, mon VIE, je suis parti de Biotope et j'ai commencé à travailler avec des professeurs à l'Académie des sciences de Chine sur la protection des aires protégées au niveau mondial.
Oui, et ça, c'était en relation avec une université chinoise.
Ouais, l'Académie des sciences de Chine.
Ouais, voilà.
Et donc l'idée c'était leur idée c'était que en fait, pour que les aires protégées, donc les parcs nationaux par exemple, fonctionnent, il faut que les communautés autour, les populations riveraines, etc., aient un bénéfice économique à la préservation, et pas, par exemple, dans des pays en développement, qu'elles n'aient pas d'intérêt à faire du braconnage, et que ça leur rapporte plus d'argent de, je sais pas, par exemple, tuer des éléphants plutôt que de les protéger, pour vendre l'ivoire, par exemple. Donc l'idée bonne, théoriquement, c'était de générer des revenus via l'écotourisme ou la vente de produits en lien avec les aires protégées, pour qu'il y ait plus d'intérêt à protéger qu'à détruire et à braconner. Donc moi je les ai aidés pour essayer de faire des formations sur le sujet, communiquer, entrer en contact avec des aires protégées un peu partout dans le monde, et mettre en place des partenariats, des débouchés pour créer ces revenus favorables à la biodiversité.
Et je ne sais pas si c'est à cette occasion, mais vous avez également fait une étude particulière en Sibérie concernant le tigre, le fameux tigre de Sibérie. Ça vous avait amené, ça vous a amené à vous déplacer dans un petit territoire très isolé.
Oui, donc ça c'était pendant mon stage de fin d'études, et donc c'est là notamment que j'ai connu Xiaoyan, la professeure de l'Académie des sciences de Chine avec qui j'ai travaillé après, et avec l'ONG American Wildlife Conservation Society. Et donc oui, en fait, c'était dans mon stage de fin d'études, j'étudiais les activités néfastes pour la les activités économiques néfastes pour la biodiversité. Et donc on avait pris comme cas de terrain le tigre de Sibérie, qui est une espèce assez charismatique et connue. Et donc j'ai étudié comment, notamment l'agriculture via des subventions, et l'élevage en particulier, pouvait être nocif pour le tigre via les pâturages par exemple qui empiètent sur qui créent du dérangement et qui empiètent sur le territoire du tigre et perturbent ses proies et donc l'ennemi.
Et quelles étaient les relations avec les partis communistes locaux duquel vous dépendiez pour vous déplacer? Vous deviez demander les autorisations, je suppose.
Ouais, donc c'était une zone qui était à la frontière avec la Russie et la Corée du Nord, et qui a du coup assez sensible. Et donc je ne savais pas forcément ça au début en choisissant le terrain. Mais donc ça veut dire que en fait les étrangers n'étaient pas autorisés à aller dans les villages auprès de la frontière. Alors que moi j'avais besoin d'aller dans ces villages près de la frontière pour collecter des données, faire des entretiens avec les agriculteurs pour mieux comprendre leurs revenus et voir comment les subventions étaient importantes ou pas dans le fait que leur activité soit viable. Ce qui est le cas, effectivement, s'il n'y a pas les subventions, les activités ne sont pas forcément viables, donc il y aurait eu moins d'impact sur le tigre. Et donc, au bout d'un moment, on s'est vu interdire. Au début, on pouvait aller un peu sur le terrain avec WCS, et au bout d'un moment, on s'est vu interdire les accès, et donc du coup j'ai dû aller un peu par mes propres moyens près de la frontière pour collecter des informations qui me manquaient pour mon mémoire de stage.
Et je crois que vous avez diversifié aussi vos domaines d'action, entre guillemets, en faisant une mission au Togo, carrément pour l'ONU. Comment est-ce qu'on obtient des missions pour l'ONU?
Ouais, bah, donc il y a des appels d'offres, et il faut s'inscrire sur des plateformes pour les recevoir et ensuite remplir un dossier de candidature où on donne notre CV, toutes les expériences pertinentes qu'on a en lien avec la mission. Donc là, c'était une mission sur le financement des aires protégées au Togo. Et donc, j'ai listé des expériences que j'avais en lien avec les aires protégées, notamment en Côte d'Ivoire, l'évaluation des financements pour la biodiversité, etc. Et après, on envoie notre dossier et donc on est sélectionné ou pas si on remplit les critères. Donc, il y a des critères notamment sur le nombre d'années d'expérience. Et donc à l'époque, j'étais proche de 10 ans d'expérience, mais je ne les avais pas encore. Donc il y avait tout un tas de missions qui demandaient d'avoir 10 ans d'expérience auxquelles je ne pouvais pas prétendre. Mais donc j'avais réussi à effectivement gagner cette mission au Togo. Donc j'étais encore en Chine à l'époque, donc j'avais passé un mois au Togo à analyser les recettes et dépenses liées au fonctionnement des aires protégées du Togo, pour produire des recommandations et un budget sur 5 ans, etc. Donc c'était financé effectivement par le programme des Nations Unies pour le développement, et puis également la Banque africaine de développement et je crois la Banque mondiale aussi.
Et ça vous demande de produire un mémoire qui est dans les 50 à 100 pages, je crois, non? Un travail assez conséquent?
Ouais, c'est ça. Puis après, il faut faire aussi des analyses des budgets sur Excel, etc. Et on espère permettre aux autorités nationales après de récupérer des financements auprès des bailleurs internationaux et à faire la bonne gestion. Après, malheureusement, c'était une mission où je me suis rendu compte que c'était pas extrêmement utile. C'était payé par les bailleurs internationaux comme le programme des Nations Unies pour le développement, mais je pense que ce rapport n'a pas servi à grand-chose, malheureusement.
Et dans ce genre de mission en Afrique noire, je suppose qu'il y a des petites anecdotes, comme par exemple quand on se transporte avec des mototaxis et qu'on se retrouve face à des manifestations. Je crois que ça vous est arrivé.
Au Togo, c'est le président actuel est le fils du président passé, donc c'est pas forcément extrêmement démocratique. Et il y a quand même des élections. Et du coup, c'était un peu tendu à l'époque où j'y étais, parce qu'il y avait eu des morts dans un village lié à l'opposition. Donc il y avait des manifestations, et donc c'était un peu, ils appelaient un peu à la grève générale, etc. Et donc à un moment, j'avais dû passer acheter des choses à un autre endroit de la ville, et j'avais traversé en moto-taxi. Et c'était effectivement un peu tendu, mais ils étaient plutôt énervés, enfin ils étaient uniquement énervés contre le chauffeur qui faisait pas la grève, et pas du tout contre moi. Donc c'était quand même un peu, c'était un peu inquiétant parce que le chauffeur s'est un peu fait taper, mais bon, finalement ça s'est bien passé pour moi.
On va faire une petite pause avec un morceau d'un groupe que vous aimez beaucoup, qui s'appelle OSI, Office Stratégique d'Influence. La stratégie et l'influence, c'est deux domaines qui vous tiennent à cœur. J'ai choisi Refree, qui est un remix avec Kevin Moore. Kevin Moore, c'est quelqu'un qui n'était pas au départ de OSI, qui vient de Chromakey.
Oui, Kevin Moore, c'est un clavier
Chanteur.
et qui chante également ouais, du groupe Dream Theater de rock metal progressif, et qui est un groupe plus solo Chromakey, et qui est un des cofondateurs de Ozzy. Ouais.
On écoute et en deuxième partie, on parlera de la nouvelle boîte entre guillemets que vous créez.
Thank you.
Rebonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Joshua Berger. On a parlé de votre nouvelle boîte, BioInt. Expliquez-nous comment vous avez choisi ce nom.
Oui, alors je cherchais à avoir un nom qui était assez descriptif de ce qu'on fait. Et donc, je suis arrivé avec le nom, et c'est en anglais parce que c'est une entreprise qui a vocation à servir des clients à l'international. Tout ce qu'on fait est en anglais. Et donc le nom c'était The Biodiversity Footprint Intelligence Company, mais c'est un petit peu long et notamment si j'ai du mal à le faire rentrer des fois dans les formulaires pour les assurances, etc., il y a trop de caractères. Et donc il me fallait un nom court aussi pour le nom de domaine, pour les emails, etc., des choses un peu bêtes comme ça. Et donc je me suis un peu creusé la tête et donc finalement je suis arrivé à BioInt, BIOINT, qui est plutôt pas mal. Après donc ça fait un peu quand j'en parle autour de moi, ça fait un peu débat des fois, le intelligence, donc c'est dans le sens un peu comme la CIA aux États-Unis, c'est intelligence dans le sens collecte d'informations pour la sécurité nationale et choses comme ça.
Ouais, donc ça pourrait faire peur aux futurs clients.
Bah j'espère pas, mais en tout cas l'idée c'est qu'on ait une entreprise sur un segment un peu nouveau de nature intelligence et donc de fourniture d'informations un peu stratégiques sur la nature, la biodiversité et avec nous un focus encore spécifiquement sur la partie footprint, donc empreinte, biodiversité, impact sur la biodiversité et aussi tout ce qui est dépendance des entreprises vis-à-vis de la nature.
Alors quand on crée une entreprise, c'est qu'on a quelque chose à apporter de nouveau. Donc pouvez-vous d'ores et déjà nous dévoiler un peu votre vision court et long terme, vos objectifs ?
Oui, bah, donc l'objectif c'est de pouvoir fournir les informations nécessaires à tous les parties prenantes. Donc, en fait, sur le long terme au pouvoir public, mais sur le court terme aux entreprises, aux institutions financières, puis après également aux ONG environnementales, aux organisations non gouvernementales type WWF par exemple. Pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions. Et donc notamment, en fait, notre objectif, c'est que petit à petit, on montre que c'est possible d'avoir des taxes, par exemple, sur la biodiversité. Donc, un peu comme on a une taxe carbone qui fait que le prix du carburant est plus élevé quand c'est du pétrole. On puisse avoir des taxes sur la biodiversité qui augmente les prix des matériaux, des produits, des services, un impact élevé sur la biodiversité et qui nous dirige petit à petit vers des choses qui coûtent moins cher et qui ont un impact plus faible, mais aussi donc des subventions pour accompagner les gens dans la transition et des outils réglementaires. Donc, par exemple en France on ne peut pas construire des nouveaux bâtiments qui n'ont pas une efficacité énergétique suffisante, mais qu'on a des choses un peu similaires sur la biodiversité. Et donc l'objectif c'est qu'on fournisse ça, et donc nos clients c'est des grandes entreprises, des institutions financières, donc des banques, des assurances, etc. Et on les accompagne sur des sujets du début de leur découverte du sujet biodiversité jusqu'à des choses plus poussées pour les accompagner sur la mise en œuvre, par exemple, de suivi de déforestation dans leur chaîne de valeur, dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc ce qu'on apporte, c'est qu'on a une expertise qui est assez large, mais sur un peu tous les domaines, mais spécifique sur la biodiversité, tournée vers l'international et assez quantitative.
Et je suppose que vous avez passé des années à créer un outil qui s'appelle le GBS, Global Biodiversity Score. Donc je suppose que vous comptez quand même utiliser cet outil pour votre nouvelle entreprise.
Oui, bah donc on a un partenariat avec, enfin on travaille pour CDC Biodiversité, et je travaille pour CDC Biodiversité sur une partie de mon temps, c'est notre principal client à l'heure actuelle. Et on s'entend très bien avec la direction empreinte et la direction de CDC Biodiversité. Et donc, évidemment, on utilise le GBS pour nos clients, mais donc on utilise également d'autres outils qui peuvent être plus pertinents pour les clients, parce que le GBS, c'est un outil qui se focalise sur un aspect de la biodiversité, c'est l'état de santé des écosystèmes. Il y a d'autres aspects à prendre en compte, comme les aires protégées, les espèces en danger, etc. Et donc, on va appliquer une série d'outils qui répond aux besoins de nos clients, mais le GBS en fait partie. Ouais.
Alors, vous avez déjà embauché deux personnes et vous comptez en embaucher plus. Vous m'avez dit que une de ces personnes qui va être l'équivalent d'un manager, d'une manager, elle aura besoin pour se mettre à niveau au point de vue technique, au point de vue GBS, de quasiment 9 mois. Donc, ça demande autant de temps pour arriver à un niveau suffisant.
Oui, bah, c'est mon expérience en ayant monté une équipe de 2 personnes jusqu'à une vingtaine entre 2018 et 2023 chez CDC Biodiversité. C'est que on est sur un sujet qui est très complexe et intégrateur de plein d'autres sujets en fait. La biodiversité, c'est aussi ça que j'aime bien dans ce sujet. C'est qu'on touche à la fois aux questions d'usage des sols, de déforestation, aux questions de changement climatique, aux questions de pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution des sols. Et on est également sur tous les segments d'activité. Donc on va de l'agriculture au service, en passant par la manufacture de produits électroniques, etc. Donc il y a énormément de choses à connaître sur le cycle de l'azote, la pollution, la déforestation, etc. etc., etc. Beaucoup d'outils. Plus également, il faut apprendre les méthodes un peu qu'on a au niveau de l'entreprise. Donc ça prend au moins 9 mois, surtout sur un poste de manager. Et pour un poste plus ce qu'on appelle de production, donc plus consultant, ça prend au moins 6 mois.
Alors, on va parler d'une petite chose à l'international. Je crois que c'est tout bêtement les COP successives. Je crois que vous avez participé à plusieurs COP par l'intermédiaire de CDC Biodiversité. Vous avez été à Sharm el-Sheikh, qui était la COP 14.
Ouais, c'était la COP 14. La Convention sur la diversité biologique, la CDB, c'est l'équivalent de la Convention climat. Donc les COP climat, il y en a tous les ans, donc on est déjà du coup à la 28, alors que sur les COP biodiversité, c'est tous les 2 ans. Et du coup, on est entre guillemets que à la COP 15 et bientôt 16. Donc j'ai effectivement été en 2018 à la COP 14, à Sharm el-Sheikh en Égypte, et en 2022, parce que avec Covid, il y a eu un décalage de 2 ans, qui a été assez dommageable, à la COP 15 à Montréal.
Est-ce que maintenant, avec le temps et votre retour sur expérience, est-ce que votre travail peut avoir un impact même minimum sur les décisions qui contribuent à changer notre environnement à travers les COP et...
Oui, bah, je pense qu'en tout cas, on a la possibilité de le faire. Après, tout seul, une personne ou une entreprise ne peut pas changer tout ou autre les choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres acteurs et une grosse inertie, etc. Mais je pense que la COP 14 à Sharm el-Sheikh, il y avait très peu d'entreprises et d'institutions financières qui étaient impliquées. Pas tellement de rôle pour ces entreprises et institutions financières. Il ne s'est pas passé tant de choses que ça. À la COP 15, c'était assez différent. Le sujet biodiversité a été beaucoup plus présent dans l'agenda des entreprises. Et il y avait énormément d'entreprises, d'institutions financières et de gens du privé qui étaient présents, mais avec un rôle plutôt positif de manière générale pour générer des financements supplémentaires et voir comment réduire l'empreinte, etc. Et on a pu pas mal y contribuer. En étant en échange notamment avec différentes parties prenantes et les équipes de négociation françaises sur la cible 15 qui porte sur les entreprises notamment. Donc ça c'était assez intéressant. Et après on a vu, enfin le CDC Biodiversité étant un acteur un peu particulier, filiale de la Caisse des dépôts qui est une institution publique, on avait un accès privilégié au pouvoir public français, donc on a pu contribuer par exemple à la rédaction de l'article. Le décret pour l'article 29 de la loi énergie-climat qui établit les exigences de reporting pour les institutions financières sur la biodiversité. Donc, ça envoie vraiment dans le monde réel un impact. Et après, donc, par exemple, le projet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais en Chine avec Biotope, on a restauré un lac de 6000 hectares et on a vu les grues de Sibérie, les autres oiseaux, etc. revenir. Et donc, je compte bien contribuer à d'autres projets de ce type-là, avec des impacts concrets dans le monde réel, où on voit vraiment plus de plantes, plus d'animaux, etc. Et donc, pouvoir contribuer à ça avec Bayonet. Donc, je pense que oui, on a un impact. Après, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on a des missions comme celle au Togo, où en fait, on fait de notre mieux, mais c'est pas très utile, parce que le client, en fait, n'est pas spécialement intéressé et ne va rien faire de ce qu'on produit.
Alors, je crois qu'on ne peut pas couper à la question maintenant que vous avez 10 ans d'expérience avec CDC et certainement 15 ans depuis votre sortie d'école. Est-ce que Être agro, comme vous avez voulu l'être, est-ce que ce choix s'avère être quelque chose qui correspond à vos attentes ?
Oui, bah, je pense que oui. C'est une formation qui donne beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets qui sont très importants pour comprendre ce qui se passe dans le monde. À la fois des sujets qui n'ont pas de rapport direct avec l'agronomie sur le droit, l'économie, par exemple, mais aussi des sujets qui sont indispensables dans mon métier. Donc je vois bien, quand je recrute des gens qui ont fait une école d'agronomie versus ceux qui n'en ont pas fait, il y a une grosse différence sur leur connaissance de base, sur bah, donc le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le fonctionnement de l'agriculture, l'écologie, l'écologie des populations, etc. Et ma formation en dernière année en économie de l'environnement, ça m'a vraiment, à titre personnel, beaucoup plus ouvert sur des enjeux plus... entre guillemets géopolitique, enfin c'était pas ça directement, mais de comprendre les jeux d'acteurs, la nécessité d'avoir une stratégie en tant qu'acteur pour l'environnement, etc. Et donc je pense que oui, ça m'a bien préparé aussi à avoir une approche un peu, c'est ce que vendent les écoles d'agronomie, mais une approche holistique où on a une vision d'ensemble et on n'est pas juste en train de résoudre les problèmes indépendamment les uns des autres. Donc moi je suis très satisfait de ma formation et je pense que ça m'a pas mal apporté, ouais.
Pour ceux qui voudraient vous suivre ou carrément vous demander des conseils, on peut vous retrouver sur LinkedIn. Il suffit de taper Josua Berger.
Sur LinkedIn, on peut effectivement me chercher. Après, il y en a pas mal qui ont le même nom que moi, donc peut-être que vous allez tomber sur d'autres gens. Mais vous pouvez taper ça et puis laisser des CB Diversité ou BioInt et on pourra trouver mes coordonnées, effectivement.
Merci Josua d'avoir survécu au tigre de Sibérie et à Fukushima, je crois que c'était au même moment.
Oui, c'était au même moment. Oui. Je m'étais un peu inquiété des radiations, mais c'est bon.
Donc vous êtes très résistant, je vous ai devant moi, vous avez quand même perdu pas mal de cheveux dans l'histoire, mais vous avez résisté. Merci bien.
Avec plaisir.
Focus. Une immersion dans l'univers de la création.